France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Barthélémy Gaillard, Quentin Péchard, Sacha Mattei et Antoinette Benoît. Réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Noé Chaban. Au sommaire de l'émission de ce jour, la Syrie en quête de stabilité intérieure. Près de 3 mois après la chute de Bachar al-Assad, les nouvelles autorités syriennes, ex-djihadistes de Hayat Tahrir al-Sham, ont convoqué cette semaine un dialogue national avec plus de 500 personnes censées représenter la société syrienne dans sa diversité. Il s'agit d'engager ensemble le relèvement d'une Syrie exsangue. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Vous êtes à nos côtés comme chaque vendredi, notre partenaire du Monde. Bonjour Alaa Konmani.
Bonjour.
Et bienvenue à vous, journaliste franco-syrienne à Libération, spécialiste de la Syrie. Nous serons rejoints dans ce studio par Garance Lequen, journaliste indépendante, collaboratrice régulière à la Tribune Dimanche et qui revient de Syrie. Ce sera après notre retour de, comme chaque vendredi, retour du Kosovo ce matin. Le pays qui a voté il y a 3 semaines pour des législatives, le premier ministre social-démocrate Albin Kurti a été reconduit mais sans majorité. Parmi les thèmes très débattus de la campagne, il y a eu l'accès à l'électricité. Les 2 millions de Kosovars font face depuis 3 ans à des coupures de courant régulières qui paraissent interminables quand les températures l'hiver descendent à moins 10, moins 13. La dépendance au charbon a aussi été abordée, c'est un vrai problème au Kosovo, mais pas les conséquences sanitaires et environnementales de la combustion du charbon, plus précisément du lignite, dont les sous-sols kosovars regorgent. Bonjour Laurent Asgui.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes photojournaliste indépendant. Ça fait près de 20 ans que vous parcourez les Balkans occidentaux et le Kosovo. Votre dernier reportage, Grismine au Kosovo, apparu dans la revue 21, mis en dessin par Thierry Chavant. On peut aussi voir vos photos sur ce sujet sur le site de Mediapart. On mettra tous les liens sur le site de Culture Monde. Laurent Asgui, quelle odeur a la production du charbon quand on arrive au Kosovo ?
Écoutez, c'est mon premier souvenir du Kosovo quand j'y vais pour la première fois en 2007, un peu avant l'indépendance du territoire. À l'époque, c'était un territoire. Et c'est une odeur qui vous suit partout. Et moi, c'est une odeur qui m'a vraiment frappé et qui m'a toujours accompagné à chaque fois que j'y suis allé. Parce que c'est un peu le truchement de mon histoire personnelle avec ce pays. J'y suis souvent allé l'hiver.
Qui embaume la peau, cette odeur, les cheveux, les vêtements. Alors vous êtes toujours un peu addict même, je crois, à cette odeur-là, mais votre fixeur, celui qui vous guide sur place, il s'est complètement habitué à cette odeur-là. Il vit au Kosovo depuis son enfance.
Oui, tout à
il
fait.
Ne la sent même plus, en fait.
Tout à fait. Mmh. Oui, c'est Adem qui m'a beaucoup aidé pour ce travail. Et il me racontait des souvenirs d'enfance où c'était encore pire. Mmh. Cette pollution dans l'atmosphère, dans l'air, avec un oncle qui habitait tout près de l'une des deux centrales.
Et ses parents à lui qui vivaient à 40 km de la centrale, mais qui ne sentaient même plus l'odeur, la fumée de la combustion du charbon. C'est ça qui sent ou ce sont aussi les mines à ciel ouvert ?
Bah écoutez, c'est difficile de vous répondre exactement. Hein, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est toxique, ce sont les gaz et les fumées qui s'échappent de la centrale. Des deux centrales, Kosovo A et Kosovo B. Mais ce qu'il y a par ailleurs et qui pollue beaucoup, c'est le site de déchets toxiques. Donc c'est un mélange de cendres et de produits chimiques. Mm-hmm. Donc pour évacuer les cendres de charbon. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un jeune pays qui a une histoire difficile et où donc les règles ne sont pas du tout les mêmes que qu'en France, par exemple, ou en Europe.
Pour la combustion de charbon, vous voulez dire c'est une industrie qui pollue beaucoup plus que toutes les normes européennes imposées ailleurs.
Tout à fait.
Deux fois et demi plus, c'est ça ?
Oui, c'est ça, exactement. Oui, les chiffres dépassent toutes les normes officielles. Et juste pour en terminer avec ce fameux site de déchets, c'est que derrière, ça pollue la nappe phréatique, ça pollue les cours d'eau, ça pollue les terres où les gens cultivent autour.
Vous êtes allé, par exemple, dans cette mine à ciel ouvert qui est tout près de Pristina, la capitale du Kosovo. C'est le site de Sibovk, 15 kilomètres, je crois, de Pristina. Il est gigantesque, il s'étend sur 9 kilomètres carrés. Quel trésor, Laurent Hasgui, fut-il toxique? Quel trésor le Kosovo détient dans ses sous-sols?
Écoutez, on dit que c'est la cinquième... C'est le cinquième pays au monde où il y a le plus de réserves de lignite. Donc il y a beaucoup encore de terres et de ressources inexplorées dans ce pays. Et
alors qu'il est tout petit, ce pays.
Alors qu'il est tout petit, il est légèrement plus petit que l'Île-de-France. Donc ça vous donne une idée. Et cette mine à ciel ouvert, visuellement, c'est complètement fou. En fait, à voir, moi j'utilise cette formule dans la BD reportage paru en 21, en disant que j'ai l'impression d'être comme dans le film Transformer, avec des machines gigantesques, et nous on a l'impression d'être tout petit. Et cette mine à ciel ouvert ne cesse de grignoter les terres alentour.
C'est un charbon qui a été le fleuron de l'industrie yougoslave avant que la Yougoslavie n'implose et que Serbes et Albanais se le disputent, ce charbon-là. Ce site de Sibovk, est-ce qu'il est toujours aussi riche en lignite ou est-ce qu'il a fini de cracher ce qu'il devait cracher, si vous me permettez cette expression?
Non, il est encore riche, mais c'est pour ça qu'il y a cette volonté d'expansion, et notamment à côté du... il grignote le village d'Adeux, qui est collé à cette mine, et où j'ai vu une situation complètement folle pour les derniers habitants qui continuent à y vivre.
Alors, c'est-à-dire le village d'Adeux, il est à quelques kilomètres de là. Enfin, il est collé aussi, mais il faut prendre la voiture, puisque le site est immense, il fait 9 kilomètres carrés. 500 familles vivaient avant la guerre, 70% travaillaient à la KEK, donc la compagnie d'électricité du Kosovo. Elles ne sont plus que 17 aujourd'hui. Comment vous avez vu changer cette ville, si vous y étiez allé avant, mais surtout les personnes que vous y avez rencontrées? Pourquoi est-ce qu'elles restent? Sur les images, on a plutôt l'impression d'une petite commune qui est encerclée à la fois de la mine, mais aussi de déchets. Donc pourquoi cet homme, par exemple, Blérim Preniki, que vous avez rencontré, il est toujours aussi attaché?
Écoutez, en fait, il vit toujours là avec sa famille. Donc c'est l'une des 20 dernières familles qui vivent là, parce qu'en gros, ce qu'on lui propose en termes de relogement ou de compensation financière, ça lui convient pas. Sa famille vit là-bas depuis 200 ans. Et lui ne peut pas accepter en fait ces conditions-là. Et juste pour comprendre visuellement et en termes de vie quotidienne ce que ça signifie. Alors moi, ça m'a rappelé la zone contaminée de Tchernobyl où je me suis rendu pour travailler là-bas lors d'un autre reportage. Mais ça m'a aussi rappelé comme une zone de guerre, parce qu'il y a énormément de maisons qui sont complètement éventrées, cassées. En fait, ce sont les gens qui sont partis derrière. L'État a décidé de casser ces maisons pour pas qu'il y ait de squat. Donc il y a des chiens errants, et on est à côté de la mine, donc la terre elle tremble, l'atmosphère est viciée, il n'y a plus de services publics, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien du tout. Alors qu'avant c'était un village florissant. Donc on se rend compte que cette situation elle est complètement folle, et Blérim me disait, on a l'impression d'être comme dans les limbes.
Les limbes ou l'antre du diable, c'est aussi une expression qu'on croise dans votre reportage. Ces familles qui vivent près des mines, tout comme les employés, est-ce qu'ils font l'objet d'un suivi médical spécifique? On croise par exemple le médecin Gazmen Zouri, qui est pneumologue. Bon, son enquête, elle date de quoi, d'il y a 15 ans maintenant?
Oui, c'est ça, oui.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une vraie volonté quand même de se saisir de cette question? Ou il y a un médecin à qui on laisse quand même un peu la parole, ça donne une sorte de caution scientifique? Enfin, qu'est-ce que vous avez ressenti de la façon dont est prise en charge cette question-là, est prise au sérieux ou pas?
Alors la question, clairement, elle est taboue. Elle est taboue au Kosovo. Et le paradoxe, c'est que d'un côté, moi je trouve que la parole, en fait, y est très libre, en comparaison peut-être aux pays avoisinants, où il y a des pouvoirs qui sont un peu plus autocratiques, je pense notamment à la Serbie, où j'ai travaillé aussi, ainsi qu'en Bosnie-Herzégovine, sur le même sujet. Mais derrière, en fait, il n'y a pas cette volonté d'aller vraiment sortir des statistiques, d'aller sortir les chiffres, alors que les gens le savent et le sentent. En fait, il y a un taux de cancer en fait qui est extrêmement élevé. Il y a quand même des informations qui sortent. Il y a le réseau écologiste Bankwatch qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, mais plus au niveau des conséquences environnementales. On manque de chiffres, mais par contre, quand on se met à discuter avec les gens, il n'y a pas une famille qui n'a pas des gens qui ont un cancer, en fait, quoi. Et ce n'est pas que dû à la cigarette, par exemple, parce qu'on parle aussi de ça, parce qu'ils fument beaucoup. Mais
Il y a par exemple cet ancien ingénieur, je dis ancien ingénieur de la CAQ parce qu'il prend tout juste sa retraite au moment où vous le rencontrez. On vient de lui diagnostiquer un cancer, comme son grand-père, sa mère, son père, un cousin. Mais lui, il vous dit que voilà, il faut que ça change, mais qu'il n'engagera pas d'action en justice, qu'il ne se battra pas avec la CAQ, la compagnie d'électricité du Kosovo. C'est presque peine perdue.
On ne mord pas la main qui vous nourrit.
C'est ce qu'il vous dit.
C'est ce qu'elle me disait ce monsieur ingénieur, 40 ans de CAQ derrière lui. Moi, quand je l'ai rencontré, ça faisait 3 ans qu'il avait contacté la maladie. Là, il était en récidive. Et moi, quand je le rencontre, il a 3 jours de la retraite. Et en fait, ce témoignage, il est extrêmement fort parce qu'il raconte énormément de choses. C'est-à-dire, il vous dit que clairement, son cancer des poumons est dû à son travail. Pour lui, ça ne fait pas de doute. Et en même temps, quand je lui demande s'il ne veut pas entamer une procédure contre la compagnie, il dit ben non, c'est pas possible. Il y a encore des gens dans ma famille qui y travaillent. Et
il vous dit, comme beaucoup d'autres vous diront, mes enfants, eux, ils travailleront jamais à la CAQ pour justement ce souci de préserver la santé des siens. La CAQ qui emploie donc cette compagnie d'électricité du Kosovo, 3200 personnes, ce sont les chiffres de 2023. Vous avez rencontré le président d'un syndicat, le nouveau syndicat, Nejat Umnitse. Et là, vous avez aussi eu l'impression qu'il avait une vraie liberté de parole sur ce qui se passe en ce moment, à la fois sur le site sur lequel il travaille, de combustion du charbon, mais aussi plus généralement les questions de corruption au Kosovo. Il vous en a parlé assez librement.
Oui, tout à fait. Dans d'autres pays, des Balkans de l'Ouest, souvent quand on parle des syndicalistes, on rajoute tout de suite à côté qu'ils sont souvent très proches d'un parti politique. Là, je l'ai moins senti, je l'ai trouvé très honnête dans sa façon de me parler. C'est-à-dire que concrètement, il m'a dit, ben voilà, moi, mon job, c'est de défendre les salariés, coûte que coûte. De continuer à demander une amélioration des conditions de travail, augmentation de salaire et sur d'autres sujets. Mais par contre, il est très conscient en fait des conséquences. Il faut savoir que ça, c'est lui qui me disait ça. Il y a 1% des salariés de la CAQ qui meurent chaque année de cancer. Donc ça fait 30 à 35 personnes. Donc il est extrêmement conscient de ça. Mais il me dit OK pour arrêter Kosovo A et Kosovo B, les deux centrales. Mais il faut donner d'autres perspectives à mes gars, quoi.
Vous voulez dire dans le cadre d'une éventuelle transition énergétique, par
exactement.
Exemple, ça c'est un mot qui existe au Kosovo, dont on parle dans le débat politique, engager une transition énergétique dans un pays qui est aussi dépendant aujourd'hui du charbon.
Oui, tout à fait. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a 90% de l'électricité du Kosovo qui est produite par ces deux centrales. Donc on comprend l'ultra-dépendance qu'ils ont vis-à-vis du lignite. Mais forcé par l'Union européenne, parce que le Kosovo est candidat pour une future adhésion.
Depuis 2022, mais la candidature n'a pas encore été approuvée formellement.
Non, en tout cas, il y a cette envie. Et derrière, l'Union européenne commence en fait à donner comme des travaux forcés au pays pour qu'ils puissent éventuellement, peut-être un jour, intégrer l'Union européenne. Et ça passe par améliorer toutes ces histoires de pollution. Et donc, le gouvernement du Kosovo, par la voix d'Albin Kurti et son mouvement Veden Noyer,
Premier ministre,
le Premier ministre,
social-démocrate,
ont lancé en fait un plan de transition énergétique sur 10 ans qui court jusqu'à 2031 pour améliorer la situation en développant notamment beaucoup l'éolien et le solaire.
Mmh. Ces questions ont vraiment été abordées frontalement dans la campagne.
Oui,
donc les dernières élections ont eu lieu il y a 2 semaines. Albin Kurti a remporté les élections, mais il n'a pas la majorité absolue. Il a obtenu 41% des voix. Ce sont des questions... Enfin, quelle place prennent-elles ces questions-là dans le débat politique aujourd'hui et a fortiori quand il y a des élections?
En fait, je prendrais un peu la question à l'envers. C'est-à-dire que ça touche les gens en premier, quoi. C'est-à-dire que c'est les gens qui réclament en fait une amélioration à ce niveau-là, parce qu'encore aujourd'hui au Kosovo, l'hiver notamment, il y a des coupures de courant. Moi, j'ai connu ça là-bas en y allant modestement donc de temps en temps pour mes reportages. Ça raconte beaucoup de choses de l'état d'un pays.
Stella Kohnmani qui est à côté de vous, syrienne, on sait quelque chose, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Ces infrastructures sont dans très mauvais état. Le syndicaliste Nejat Oumnitse que vous avez rencontré, par exemple, vous parle de tous les investissements stoppés ces dernières années. Il dit qu'il faut absolument changer les chaudières, par exemple, de la centrale de Kosovo A. Ça doit se faire dans les 5 ans, sinon elle va s'arrêter et on n'aura plus rien. Néanmoins, il affirme qu'il y a de l'argent dans les caisses. Lui, il en est sûr, il y a de l'argent. Comment est-ce qu'il le sait qu'il y a de l'argent? Parce que par ailleurs, il y a des problèmes de financement de cette société, puisque toutes les minorités serbes qui vivent au Kosovo refusent depuis longtemps de payer cette électricité aux autorités kosovares. Ça fait des manques à gagner colossaux.
Alors là, il y a eu des changements aussi là-dessus, ouais. Début 2024. Ça, c'est un peu l'Arlésienne, cette histoire de non-paiement de l'électricité par la communauté serbe des enclaves, à peu près 100 000 personnes au Kosovo. Donc là, ça c'est normalement la situation est censée être réglée aujourd'hui. Alors c'est pas encore si l'argent a vraiment été remboursé ou pas. Mais depuis 2024, il y a eu du changement grâce notamment à l'intervention de la Turquie qui a joué un peu le rôle de médiateur.
C'est la société serbe Elektrosever, par exemple, qui assure aujourd'hui la distribution dans ces enclaves serbes. Le Kosovo parlait d'un manque à gagner de 320 millions d'euros pour l'État kosovar. Ces minorités, enfin, c'est les Serbes qui refusent de payer l'électricité qui vient du Kosovo. Peut-être un petit mot sur la façon dont vous avez vu les choses changer, parce que vous nous rappeliez, Laurent Hasgui, que vous étiez allé au Kosovo juste avant l'indépendance. Vous aviez d'ailleurs rencontré à l'époque Albin Kurti avant, qui était encore chef de mouvement indépendantiste, que vous aviez pris en photo devant un petit radiateur à combustion ou électrique, d'ailleurs pour parler aussi à l'époque de ces coupures de courant prenaient beaucoup de place déjà à l'époque, mais ça n'a donc pas beaucoup changé.
Oui, tout à fait. Et puis ce qu'il faut... impossible de ne pas parler du Kosovo et de dire que la situation avec les Serbes, les enclaves et la Serbie reste extrêmement complexe. Parce que la Serbie ne reconnaît pas le Kosovo. Depuis tout à l'heure, j'emploie le mot de pays pour parler du Kosovo. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, du côté de la Serbie, on estime toujours que c'est un territoire serbe et qu'au niveau international, il y a à peu près un pays sur deux, des Nations Unies, qui reconnaît ce pays.
Peut-être un dernier mot pour conclure, Laurent Hasgui, parce que toute la région s'accroche au charbon, en fait, pas seulement le Kosovo, les pays de l'ex-Yougoslavie qui comptent en tout 18 centrales à charbon, lesquelles émettent 2,5 fois plus de dioxyde de soufre que l'ensemble du parc européen, et toutes ces centrales dépassent largement les plafonds fixés par l'Union européenne pour le dioxyde de soufre, mais aussi les poussières et les oxydes d'azote, donc tous ces polluants liés au charbon. C'est vraiment un problème général dans la région et pas strictement kosovar.
Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, mon travail, en fait, ne se limite pas qu'au Kosovo. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé en Bosnie-Herzégovine et en Serbie. J'aimerais bien aller au Monténégro et en Macédoine du Nord. Ce sont vraiment les 5 pays qui sont encore très dépendants au charbon. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, ça reste un problème environnemental majeur et surtout aux conséquences terribles pour la population.
Merci beaucoup Laurent Hasgui. On peut voir vos photos sur Mediapart, en plus de la bande dessinée que vous avez signée avec Thierry Chavon dans la revue 21. Je signale que vous avez pu réaliser ce travail avec le soutien d'une bourse de la photographie documentaire du Centre National des Arts Plastiques, le CNAP, que vous avez obtenu en 2022. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Escova para menor. tash pëm flish do nat Pe di që si rahat Po vëm më këthy jo prap Le lektoranam Tim bash pirtjem ranam Bash pirtjem ranam Po lektoranam Ke gabu Dijja vu E kejt ranam Vesh ranam
Boutrint Imeri et sa chanson Leshktorena, c'est une chanson qui vient tout juste de paraître. Boutrint Imeri est un chanteur kosovar albanais né en Allemagne dans une famille originaire du Kosovo. Kosovo où les coupures de courant sont de l'ordre de 2-3 heures par jour, nous disait Laurent Asgui. En Syrie, 2-3 heures par jour, c'est à l'inverse ce que peut fournir en électricité l'État syrien. En Syrie, un si fragile équilibre, c'est notre table ronde de ce jour.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Un nouveau gouvernement syrien doit être annoncé demain par Ahmed al-Shara, l'ancien chef de Hayat Tahrir al-Sham, qui, avec d'autres groupes armés, a fait tomber le régime de Bachar al-Assad en décembre. Le président autodésigné par intérim est très attendu sur l'annonce de sa nouvelle équipe, fut-elle provisoire. Il a déjà donné des gages d'ouverture, y compris cette semaine, en convoquant un dialogue national, plutôt favorablement accueilli par ses habitants de Damas, rencontrés par RFI.
Le plus important est que le résultat soit en accord avec la situation du pays et du peuple et qu'aucune décision ne soit prise qui nuise aux Syriens ou pèse sur leur vie quotidienne. Car nous en avons assez après 14 ans de crise.
En fin de compte, ce qui nous importe, c'est de ressentir une stabilité sécuritaire, économique et sociale et que tout le monde obtienne ses droits dans le pays, que ce soit les chrétiens ou toutes les autres communautés syriennes.
Des habitants rencontrés cette semaine par Mohamed Erami de RFI. Je salue nos invités à la Konmani. Bonjour.
Bonjour.
De nouveau, journaliste franco-syrienne à Libération, spécialiste de la Syrie. Bonjour, Garance Lequen.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Vous êtes journaliste indépendante, collaboratrice régulière à la Tribune Dimanche. Vous revenez de Syrie. Vous aviez écrit il y a quelques années l'opération César au cœur de la machine de mort syrienne parue aux éditions Stock. Et Oublie ton nom, Mazen Alameda, mémoire d'un disparu, paru dans ces mêmes éditions. On commence avec votre éditorial, Marc Semo.
Merci, merci Julie. Alors, les sorties de guerre et surtout de guerre civile ne sont pas encore la paix. C'est même là que le plus difficile commence, surtout dans un pays ravagé par 14 ans de répression sanguinaire, de violences qui ont fait 500 000 de morts, plus de 6 millions de déplacés en interne et autant de réfugiés. L'enjeu est immense, mais dans un Moyen-Orient toujours au bord de l'embrasement, la Syrie est une lueur d'espoir. La conférence du dialogue national, qui a réuni pendant 3 jours plus de 500 Syriens de diverses générations, professions, régions et communautés, est un premier pas fortement symbolique, malgré ses limites. Le président autodésigné par intérim al-Shara promet un état de droit et la reconnaissance de toutes les communautés. Il montre un incontestable talent politique, même si les doutes restent, l'ex-djihadiste est fort d'avoir été le tombeur d'Assad et de représenter un sunnisme arabe conservateur, largement majoritaire, dans la mosaïque ethnique et confessionnelle syrienne. L'un des grands atouts de la transition qui commence est aussi celui d'une société civile forte, de la mémoire des grands rêves de la rébellion démocratique de 2011, avec son triple refus, celui des fractures confessionnelles, celui de la violence et celui des ingérences extérieures. Ce legs commun n'a pas été totalement balayé par les horreurs de la guerre et c'est un socle sur lequel on peut reconstruire une Syrie inclusive que la communauté internationale, comme une bonne partie des Syriens eux-mêmes, appelle de leur vœu. Mais rien n'est encore joué. Il y a le risque des vengeances, amorçant un cycle de violences sans fin, notamment à l'encontre de la minorité alaouite, secte religieuse proche du chiisme, qui fut celle du clan Assad. Il y a les Kurdes au nord-est, qui ne sont pas vraiment prêts à renoncer à l'autonomie conquise, ni à leurs armes. Mais l'appel d'Abdullah Öcalan, leader historique des rebelles kurdes turcs du PKK, emprisonné depuis un quart de siècle, à déposer les armes, est un autre signe d'espoir. S'il devient effectif, cela mettrait fin à la menace d'une intervention turque pour se créer une zone tampon le long de la frontière au nord syrien.
Merci Marc Semo d'avoir posé tous les jalons de notre discussion à suivre. Vous parlez d'une lueur d'espoir. Alors s'il est difficile de présager ce qui se passera dans les mois qui viennent, la façon dont les nouvelles autorités syriennes islamistes entendent faire usage de leur pouvoir, néanmoins qu'est-ce qui vous a paru à la Khonmani aller dans le bon sens, ne serait-ce que dans les images de ce dialogue national convoqué cette semaine dès lundi soir à Damas?
Vous êtes très impressionnant pour moi, pour tous les Syriens, de voir ça. Il faut s'imaginer que, non pas depuis la guerre civile, mais depuis bien avant, depuis des décennies, les Syriens n'avaient pas le droit de se réunir à plus de 3 ou 4 quelque part. Encore moins de dialoguer. Et de voir tout d'un coup, en plein Damas, dans le palais présidentiel, où personne ne rentrait à part... les invités officiels, etc. Sur le tapis rouge foulé par Bachar al-Assad, d'ailleurs, tout le monde a réagi comme ça. Des centaines de Syriens de partout, de Syriennes, de Syriens, de toutes sortes, de différents milieux, de différentes régions, se retrouver pour discuter avec des thématiques, avec des ateliers, avec... Bon, c'était une improvisation, c'était précipitation... l'organisation, alors il y en a eu plein de reproches sur l'organisation, sur le choix un petit peu à la dernière minute des participants, parce que ça a été un peu... Oui, il y a eu, cela dit, fait, en fin de compte, tout le monde était pratiquement représenté.
Les Syriens de la diaspora ont été prévenus trop tard pour se déplacer, pour beaucoup.
Oui, mais il y en avait déjà qui étaient à Damas. Parce que maintenant, en ce moment, il y a tellement de visites... De Syriens de la diaspora ici ou là qui viennent passer quelques jours ou quelques semaines en Syrie, que bon, on a beaucoup demandé à ceux qui étaient là, justement à Damas, présents, bah allez, puisque vous êtes là, venez participer. Bon, il y a eu des intellectuels, des artistes, etc., qui étaient justement de passage et qui n'étaient plus là depuis longtemps.
D'autres qui étaient un peu frustrés de ne pas pouvoir y aller aux États-Unis, en Europe, en disant on n'a pas de vol direct pour Damas, on ne peut pas du tout venir au pied levé comme ça. Oui. Ça génère un peu de frustration. Vous, à la Khonmani, vous avez été très marqué par les couvre-têtes d'un pays divers, d'une nation multiple sur les images.
Bah oui, parce que c'était assez impressionnant sur les images. Alors, bon, il y avait ces inévitables chefs de tribu bédouines, là, qui sont tout le temps avec leur abaya et leur grande sorte kéfier rouge et blanc, comme on voit dans les pays du Golfe, etc., qui étaient les plus visibles. Mais c'est vrai que tout d'un coup, bon, on voyait encore plus les turbans des cheikhs musulmans, druzes, sunnites, etc., les super coiffes des différents hommes d'église d'Orient, tous ces monseigneurs en grand apparat. Enfin bon, c'était le côté folklorique un petit peu de la Réunion pour bien afficher, oui, on est inclusif, oui, il y a plusieurs communautés, oui, tout le monde est là.
Et les hijabs des femmes aussi qui étaient assez nombreuses, pas aussi nombreuses que d'aucuns l'auraient souhaité, mais du coup, oui. À 20% à peu près, plus en tout cas que leur représentation dans le gouvernement provisoire intérimaire. Garance Le Cann, ces 2 jours de dialogue national ont été conclus par la lecture d'une déclaration qui fait une priorité de la mise en place d'un conseil législatif temporaire et d'une déclaration constitutionnelle temporaire. Qu'est-ce que c'est une déclaration constitutionnelle temporaire ? Aujourd'hui, des intellectuels que vous avez rencontrés pour vos reportages vous disent que geler la Constitution, dissoudre le Parlement, c'était pas nécessairement une bonne idée selon eux. En tout cas, ça a généré des inquiétudes.
Parce qu'aujourd'hui, la Syrie est dans un vide constitutionnel. Si le Parlement a été dissous, le Baas, parti unique évidemment, a été dissous, ils vont écrire une nouvelle constitution. Il y a une sorte de vide judiciaire, constitutionnel, et le vide judiciaire est tellement... Enfin, il y a même un vide judiciaire au niveau de l'administration civile, puisqu'aujourd'hui, vous avez une administration civile et judiciaire dans le gouvernorat d'Idlib, donc était gouverné par HTS avant. Vous en avez un dans le nord-est avec les Kurdes et vous en avez un dans le reste de la Syrie. À tel point qu'aujourd'hui, par exemple, concrètement, quand un enfant naît ou quand une personne décède, vous pouvez le déclarer auprès d'un juge, mais cette déclaration n'est pas rentrée dans l'administration étatique, puisqu'en fait, il va falloir unifier tout ça. Donc, on pourrait presque dire que depuis le 8 décembre, personne n'est né et personne n'est mort en Syrie. Bon, en fait, il y a quand même une déclaration, mais il va falloir rentrer tout ça. Enfin, c'est cette chute du régime et ce besoin de réinstaller une administration, de réécrire une constitution, de réformer le système judiciaire, ça va jusqu'à des petites choses très concrètes comme ça, qu'on n'imagine pas du tout de l'extérieur et qu'il faut que quelqu'un nous l'explique quand on est en Syrie pour le découvrir, en fait.
À la Côte-Manie.
Oui, c'est vrai, on ne se rend pas compte que c'est pendant toutes ces années de guerre où l'État a été absent, je parle de l'État, même pas du régime, toutes les institutions étaient absentes dans beaucoup de régions, surtout quand souvent elles échappaient au contrôle du régime, que ça n'a pas été vraiment remis en place, d'ailleurs. Et c'est vrai que on se rend... Mais même aujourd'hui, pour donner un autre exemple concret, il y a quelqu'un de ma famille, enfin des cousins, qui ont un héritage, qui doivent signer pour la vente d'un appartement à Damas. Et ben, ça fait 3-4 mois qu'ils attendent. Ils ne peuvent pas signer parce qu'il n'y a pas, tout simplement...
D'interlocuteurs ?
Les systèmes administratifs adaptés. Qui fait qu'on peut venir signer, oui, voilà, nous, héritiers, vendons, voilà.
En fait, ce qui se passe, c'est l'administrateur du nouvel ordre des avocats qui nous l'a expliqué, c'est qu'en fait, ils ont gelé toutes les ventes, parce que avant, sous l'ancien régime, pour pouvoir vendre sa maison, il fallait une autorisation des services de renseignement. Donc, ils ont décidé que ce n'était plus le cas. Mais en attendant, donc ils ont tout gelé. Donc effectivement, aucune vente, aucun achat n'est possible pour l'instant. C'est vraiment des choses. Enfin, tout est à faire ou refaire.
Tout est à faire et refaire, Marc Sémo.
Alors justement, dans ces immenses chantiers, en dehors même des questions économiques et de reconstruction, est-ce que l'un plus urgent n'est pas celui de la justice transitionnelle, c'est-à-dire de juger les coupables, notamment pour éviter les vengeances incontrôlées. Alors. Est-ce que c'est ça? Et deuxièmement, si on les juge, en fonction de quel droit? C'est-à-dire sur quel code pénal on s'appuie? Ça ne va pas être celui de l'ancien régime.
Et question subsidiaire, Garance Lequen, qui vous êtes passionné vraiment pour toutes ces questions-là, est-ce que vous avez rencontré toutes les associations de victimes qui semblent se créer là au fur et à mesure depuis la chute de Bachar al-Assad, association des prisonniers de la révolution syrienne par exemple?
Oui, il y a des nouvelles associations se créent, mais il y a déjà énormément d'associations. Moi, ce que je trouve extrêmement intéressant et une fois plus passionnant dans l'histoire syrienne, c'est que vous avez aujourd'hui pléthore d'associations extrêmement professionnelles, que ce soit sur la recherche des détenus, des disparus, que ce soit, je le répète, sur l'ouverture des fosses communes, puisque vous avez des Syriens qui se sont formés il y a plus de 2 ans déjà à l'ouverture des fosses communes, parce qu'on n'ouvre pas une fosse commune comme ça, on l'ouvre par étage, enfin c'est, on va pas rentrer dans les détails, mais beaucoup de Syriens se sont déjà formés dans différents domaines. Et ces associations de victimes ou ces associations qui réclament la justice sont là effectivement, mais le code pénal pour l'instant, le droit criminel reste, il est issu du droit français, puisqu'on avait quand même un mandat sur la Syrie. Donc pour l'instant, c'est pas la priorité. La priorité, je pense, enfin le problème se trouve, est-ce que le gouvernement intérimaire ou celui qui va être nommé demain ou après-demain va prendre en compte cette question de justice? Pour l'instant, c'est assez flou, notamment parce que Ahmed El-Sharé a reçu extrêmement tardivement les familles de disparus. Ça a été quand même assez mal vécu. On ne comprend pas très bien pourquoi. On ne sait pas si c'est parce que, en fait, c'est une erreur de jeunesse, entre guillemets, parce qu'il se retrouve à la tête d'un État, alors qu'avant, il dirigeait une région de 3 à 4 millions de personnes. Est-ce que c'est parce qu'il n'en a rien à faire, ça ne le concerne pas? Ou est-ce que c'est, certains commencent à se poser la question, une volonté de mettre la justice un peu de côté? Parce que si on commence à regarder, ou en tout cas à vouloir juger les criminels du régime syrien, peut-être qu'il faudra aussi regarder les crimes commis dans la région qu'il gouvernait. On ne sait pas, en fait.
À la Côte-Manie, c'est vrai que le mot réconciliation a l'air d'être plutôt employé aujourd'hui par les anciens du régime qui ont plutôt intérêt à ne pas subir de représailles de la part de ceux qui ont pris le pouvoir aujourd'hui ou de la population civile.
Ouais. C'est un immense problème, la question de la justice transitionnelle. Elle est à la fois indispensable, tant qu'il y a quand même eu, comme on sait, dans une situation où il y a des années de crimes qui englobe non seulement des individus et des cas par les services de renseignement, mais aussi des régions entières, enfin des zones, des communautés un petit peu assimilées aux crimes commis. Donc, je comprends très bien que non seulement les autorités syriennes actuelles, mais que ça pose problème pour tout le monde, en fait. La revendication est là. Et la société civile, comme l'a très bien expliqué Garance, est très, très dynamique sur ce sujet et en fait une priorité absolue. Notamment les victimes, mais au-delà, les organisations des droits humains et tout. Mais c'est vrai que ça pose un certain nombre de problèmes qui peuvent ranimer un petit peu des craintes, des haines, faire un dérèglement de compte assez ouvert. Là, depuis quelques jours, il y a des confrontations assez sérieuses sur la zone côtière avec certains anciens du régime Assad, anciennes milices ou anciens combattants, mais ça tombe tout de suite à la confrontation à la Ouïe sunnite quand même. Il y a cette crainte-là. Donc voilà, c'est vrai que la justice transitionnelle... Bon, cela dit, je peux faire confiance quand même, justement, aux ONG dont parlait Garance Le Quen, qui travaillent très bien, qui ont des juristes de très haut niveau, des juristes syriens formés un peu partout, qui connaissent les lois syriennes, mais qui ont été formés en Angleterre, en France ou en Allemagne, etc., et qui ont... On peut leur faire confiance.
Et en attendant, pour éviter les règlements de compte, notamment dans des régions ou dans des villes qui sont multiconfessionnelles. Alors, vous nous avez bien rappelé à la Konmani quand vous êtes venu dans notre série entière début janvier consacrée à la Syrie, l'avenir de la Syrie. Vous nous aviez bien mis en garde de ne plus parler de la Syrie seulement sous l'angle confessionnel, mais les oppositions, elles sont aussi entre les anciens pro-régime et anti-régime, pro-Assad, anti-Assad. C'est le cas, par exemple, à Homs, où vous êtes allé, Garance Le Quen, dans un reportage que vous avez publié récemment dans la Tribune Dimanche, où vous racontez une sorte de dialogue, non pas national cette fois, mais local, où des gens se mettent autour de la table en disant « il faut qu'on se parle parce que sinon on ne va pas y arriver ». Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est dit dans cette réunion?
C'était très étonnant parce qu'on avait l'impression d'assister à ce qu'on appelle un workshop, comme on a pu, nous, être formés à différentes choses. Donc, il y avait à un moment quatre tables et ces gens se parlaient autour de ces quatre tables. Donc, il y avait une table qui réfléchissait à ce que c'était qu'un gouvernement, une table qui réfléchissait au rôle des gouvernorats, une table qui réfléchissait à ce qu'était une société coutumière. Moi, je l'ai traduit comme ça, c'est le mot « ahli ». On a du mal un peu à traduire en français. Et puis une table qui réfléchissait à la société civile, ce que c'était qu'une société civile. Et c'est intéressant parce que Hala parlait des couvre-chefs du dialogue national. Et quand j'écoutais cette table ronde, là, ils étaient 6-7, et en fait, j'avais noté, donc il y avait une voilée, une très très maquillée, une pas très maquillée, il y avait un prêtre, il y avait un homme à barbe, enfin c'était un mini dialogue national, quoi. Et ils s'écoutaient parler, et c'était des gens, pour certains, qui ne s'étaient jamais parlé auparavant. Donc voilà, c'est vraiment ça, ce sont des initiatives locales, c'est vraiment le début de quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a cette peur, c'est ce que j'explique aussi à Homs, à partir de 19h, dans les quartiers mixtes où habite une majorité d'Alaouites ou de chrétiens, c'est désert. Et j'ai eu la chance de pouvoir dormir dans une famille, et le père de cette famille appelait à partir de 18h30, arrivait, enfin il était vraiment inquiet qu'on ne passe pas les barrages, il y avait des barrages par des hommes du pouvoir actuel pour surveiller, et il avait peur qu'on ne je sais pas, qu'il nous arrive quelque chose. Moi, je comprenais pas jusqu'à ce que j'arrive dans son quartier en bas de chez lui et que je vois effectivement le quartier totalement désert, quoi. Parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a eu des kidnappings, des enlèvements, des gens qui ont été tués. Voilà, ces actes de vengeance existent. Mais encore une fois, et c'est Manon Nourtanous, chercheuse, politiste, qui l'a bien dit quand elle était auditionnée à l'Assemblée nationale, en disant ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale en France. Donc ça reste quand même pour l'instant très circonscrit.
Et les gens se parlent, Marc Sémo.
Alors justement, pour éviter le cas de l'Irak, où les vengeances avaient été un des éléments qui ont enclenché un cycle de violence sans fin, au niveau des responsabilités dans l'État et des purges, Où situer le curseur? Est-ce que c'est une débasification? C'est-à-dire que tout membre du parti basse doit être mis de côté? Est-ce qu'on considère qu'il faut commencer à éloigner et à chasser de son poste ceux qui ont eu un certain niveau de responsabilité, indépendamment ensuite aussi des enquêtes et judiciaires sur des crimes commis?
Alors oui, les purges dont vous parlez, Marc Semo, ce sont ces purges qu'on commence à, oui, dont on a commencé à apprendre. On a des informations, des 200 employés par-ci dans un hôpital, 300 par-là, oui, licenciés du jour au lendemain.
Alors, tout ce que je peux dire, enfin ce que je sais, hein, parce que peut-être que Garance complétera, c'est qu'il y avait vraiment une hantise du scénario irakien. C'était présent dans la tête des gens de HTS et des nouvelles autorités. Le fait de faire des purges massives ou de couper des têtes, il y a eu évidemment au niveau très haut, par exemple de l'armée ou de, d'ailleurs ils sont partis tout seuls, il y a même pas eu besoin de les liquider, ils se sont enfuis en masse dans les quelques jours qui ont suivi la chute du régime. Donc bon, évidemment au niveau des forces de sécurité, évidemment tout ça s'est fait presque spontanément, mais il n'y a pas eu de purge massive. Il y a même eu, on a senti quelques gros bonnets qui étaient présents, notamment des hommes d'affaires, qui sont retournés dans le pays, qui étaient vraiment complètement liés à la famille Assad et à la mafia la plus, même la mafia des drogues, etc., qui a été très mal ressenti par la population. Le fait justement, mais comment vous le laissez en liberté, ce gars-là? Moi, je soupçonne Ahmad Sharah d'être tellement intéressé de récupérer de l'argent, et il a raison quelque part, des hommes d'affaires, que c'est peut-être pour ça. Enfin, il y a peut-être une négociation derrière, mais c'est juste un exemple pour dire que on s'est pas lancé dans des purges massives, ni dans l'administration, ni dans les forces de sécurité, ni par ailleurs.
C'est vrai que là-dessus, on a un doute. Est-ce qu'il s'agit à la fois soit d'un acte politique et dans certains reportages récemment dans Le Monde, par exemple, un salarié d'une centrale électrique montre aux journalistes la liste de 125 salariés licenciés, toutes à la huit selon lui, ou de mesures vraiment d'économie. Quand on voit par exemple le ministre du Développement administratif dit que l'État syrien n'aurait besoin que de 600 000 salariés pour fonctionner, soit moitié moins qu'aujourd'hui. Garance Le Ken, c'est difficile de savoir donc s'il s'agit de mesures politiques ou économiques.
C'est effectivement compliqué de savoir. Ils ont dit très vite qu'effectivement sur les 1,3 million de fonctionnaires, 900 000 faisaient vraiment leur travail, donc il y en avait 400 000 de trop. Donc ces 400 000 devaient partir. Ensuite, est-ce que ces 400 000 sont partis? C'est très compliqué de savoir. Il faudrait faire une enquête très détaillée sur l'ensemble du pays, ce qui est pour l'instant impossible. Moi, j'ai entendu dire effectivement que des familles commençaient à s'endetter parce qu'elles n'avaient plus de salaire, donc c'était un problème. Mais effectivement, ce que dit Hala, il y a aussi il y a des anciens du régime qui travaillent à nouveau avec cette autorité intérimaire. Notamment, il y a un homme qui s'appelle Fadi Sakhr, qui était l'ancien patron de la défense nationale, donc la milice au service de Bachar el-Assad, qui est revenu et qui s'est baladé dans le quartier de Tadamoun, qui est un quartier avec une population mixte, dans lequel il y a eu un massacre en 2013, un massacre particulièrement cruel qui a été documenté par notamment une chercheuse incroyable, Ansar Shahoud, d'origine syrienne. Et c'est un massacre où on a tué les gens au-dessus d'une fosse. Enfin, ça ressemble vraiment à la Shoah par balle. Et en fait, cet homme est venu se balader à Tadamoun début février ou fin janvier. Donc le lendemain, il y a eu une manifestation de familles de victimes en disant « Mais qu'est-ce que cet homme vient faire là, quoi ?» Et c'était au moment où il y avait une sorte de dialogue local, un peu comme à Homs. Et ce Fadi Sakhr, il se balade au Fort Saison, ce qui est un grand hôtel. Enfin, il y a des rencontres comme ça, mais effectivement, il faut être très, très, très proche du pouvoir pour savoir exactement ce qui se passe et pour savoir comment Ahmed el-Sharry veut construire cette autorité future. Ce qui est sûr, c'est que, juste pour revenir au niveau peut-être de la justice transitionnelle, j'ai eu la chance de rencontrer un conseiller très proche de Ahmed el-Sharry qui disait qu'en fait, le plus important, c'était la paix civile. Donc, le plus important, c'était de faire des accords entre les groupes armés et que les groupes armés avaient tous souffert de la même façon. Ce qui, quand vous entendez ça, vous avez quand même un moment de recul, surtout quand vous avez travaillé longtemps sur les crimes de ce régime et sur le fonctionnement de ce régime. Mais pour lui, la justice pouvait venir après, quoi. Mais ce qui n'est pas, enfin, vous ne pouvez pas avoir de paix sans justice. Mais la question, ce serait effectivement comment commencer, comment. Mais ça, j'ai envie de dire, faisons confiance à la société civile syrienne qui sera capable de manifester ou de mettre un point d'arrêt à des choses qui ne lui conviennent pas, enfin, qui ne conviennent pas.
Quant aux groupes armés, eux, ils sont censés avoir été dissous à la Khonmani, et même Ahmed al-Shara a dissous toutes les institutions dans sa régime et les groupes armés, y compris le sien.
Oui, HTS. Normalement.
Bon, c'est pas qui a rendu les armes, voilà, c'est ça, c'est toujours très difficile à contrôler.
Il a ordonné la dissolution de tous ces groupes pour créer une armée nationale à titre, bon, avec... individuellement, avec entrée dans l'armée individuelle, mais dans les faits, c'est pas fait. Hein.
Ouais.
Ni d'ailleurs, ils peuvent pas vraiment, parce que il faut bien des forces quand même pour intervenir aujourd'hui contre une rébellion, contre une urgence. C'est le cas notamment maintenant sur la côte. Et là, qu'est-ce qu'il faut? Les vieux HTS, les combattants, ils reprennent du service.
Et les camps djihadistes du nord de la Syrie aussi,
près
de la
frontière irakienne. Rien n'a été vraiment dissous encore. On a, dans le sud, à Daraa, on a encore une brigade entière, une grosse division qui est un peu rebelle, quoi. On est rebelles, on est des rebelles et on reste des rebelles. On s'est négocié. Pareil avec les Kurdes qui veulent intégrer l'armée en tant qu'entité, ce qui n'est pas très logique.
Enfin, et qui eux-mêmes ont maille à partir avec toujours l'armée nationale syrienne soutenue par la Turquie. Il y a encore des points de combat.
Ah oui, oui.
Donc de toute façon, les armes circulent toujours.
C'est plus un objectif et un. Je dirais pas un vœu pieux, mais une tendance, on veut ça, oui. On veut dissoudre les groupes armés, former une armée nationale professionnelle. Il n'y aura plus de service militaire obligatoire alors qu'il est là depuis 3 ans. Il durait 3 ans, le service militaire obligatoire, depuis des décennies en Syrie. Et là, ce serait sur une base volontaire et individuelle.
Marc Sémo.
Il y a un mystère aussi, Al-Shara, de comment cet homme qui vient quand même de la branche syrienne d'Al-Qaïda se révèle politique aussi pragmatique. Il est conseiller, parce que c'est quand même assez surprenant.
Toute la bande autour de lui, a plutôt eu à administrer une région.
Il est clair que ce qu'on appelle le pragmatisme ou l'opportunisme, dans l'opportunisme, dans le sens, même, j'allais dire positif, dans le sens opportunité, savoir saisir les opportunités, ça a été la constante de Jolani depuis qu'il est entré dans l'action militante ou politique. Il a su suivre le. Il a une ambition démesurée. Il fait plus peur, enfin, à mon avis, c'est peut-être personnel, par son autoritarisme et son ambition que par ses arrières islamistes. Il est plus prêt à renoncer à son islamisme qu'à son autoritarisme. Et c'est là ce qu'il faut ajouter, c'est que dans tout ça, il y a tellement d'urgence aujourd'hui que si on a l'impression que la justice est négligée ou n'est pas tout à fait une priorité, c'est qu'il y a vraiment des urgences beaucoup plus importantes qui sont la vie quotidienne, ce qui sont les salaires des fonctionnaires, l'État. Les caisses de l'État sont complètement vides.
Alors qu'ils promettent des augmentations de 40% des salaires des fonctionnaires.
Oui, non mais attendez, ça a été promis parce que le Qatar, lors de la visite de son émir, est venu dire « pas de souci, on va couvrir les salaires des fonctionnaires » parce que, oui, on le dit que l'État est complètement à sec. Sauf que là, apparemment, le problème des sanctions contre le secteur bancaire fait qu'on peut même pas virer parce que les États-Unis n'ont pas levé les sanctions. L'Europe les a levées.
Et suspendu.
Voilà, suspendu.
Oui, mais tout en disant, s'il se passe quoi que ce soit,
on découvre tout d'un coup que si les États-Unis ne lèvent pas, eux aussi, les sanctions, surtout sur le bancaire, on peut pas bouger.
Urgence pour tous les Syriens. 9 Syriens sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. 1 sur 4 est au chômage. L'ONU estime que la Syrie ne retrouvera pas son niveau économique de 2010 avant 2080 si la courbe suit le chemin qu'elle a pris. Bon, après, ce sont des estimations à la Côte-Manie. Vous avez l'air de trouver que c'est un petit peu pessimiste. En tout cas, comme chaque vendredi, on a un partenariat avec l'association de dessinateurs de presse Cartooning for Peace. Notre sujet d'actualité vu par les caricaturistes. Et donc, je vous ai glissé sur vos bureau, entre guillemets, celui de la semaine. C'est un dessin signé Fard Baradi, qui est syrien, qu'on met en ligne sur le site de Culture Monde. On y voit un homme avec un t-shirt floqué peuple syrien. Il est à genoux dans le désert et manifestement assoiffé. Il regarde au loin une oasis. Cette oasis porte un nom, Conférence de Paris sur la Syrie. C'est pourtant pas un mirage, elle a bien eu lieu il y a 15 jours. Qu'est-ce qui pourrait constituer un mirage dans les engagements qui ont alors été pris? Garance Le Ken, est-ce que je vous pose cette question-là ou à la Côte-Manie?
Que les Syriens soient en train de rêver de jours meilleurs, c'est certain, et d'un quotidien meilleur. Et je dis aujourd'hui, le leader qui ramènera plus d'électricité dans les foyers des Syriens est celui qui sera le plus populaire de tous. Il gagnera tout, je veux dire, sinon. Mais c'est vrai que bon, l'espoir est là. Le soulagement de ne plus avoir cette chape de plomb et cette terreur du régime est toujours là. On le savoure toujours, même si l'euphorie est passée, j'imagine, depuis ces derniers mois. Mais il faut pas que ça tarde, quoi. Que l'oasis commence à avoir une allure
de mirage.
Se profiler, que ce soit pas complètement un mirage.
Garance Le Ken.
C'est vrai qu'au niveau des conditions de vie, on ne mesure pas, on ne sait plus ce que c'est ici en France de vivre avec de l'électricité ou sans électricité. Enfin, c'est des choses basiques, mais quand vous avez 2 heures d'électricité par jour, 2 heures, donc vous n'avez pas d'eau chaude. Donc vous avez, vous emmagasinez de l'énergie dans des batteries de voiture ou des batteries de camion qui vous permet le soir d'avoir une lumière, un néon. Ça paraît anecdotique, mais imaginez de passer une soirée dans une pièce avec un néon blanc. C'est totalement déprimant, quoi. Et dans les appartements, vous avez une seule pièce chauffée au poêle au mazout, si vous avez de l'argent pour mettre du voilà. Et tout le reste est totalement glacial. Enfin, et c'est quelque chose. On ne sait plus ce que c'est ça. Et pour vivre dans ces conditions-là, alors on a beau dire que les gens s'adaptent, que les Syriens s'adaptent, c'est fatigant. Ce sont pas des conditions de vie normales, en fait.
Alors, ce n'est pas qu'une question de ressources, c'est aussi une question d'infrastructure. Et sur les ressources, les Kurdes disent aujourd'hui, les ressources qui sont, entre guillemets, chez nous, dans le Nord-Est, sont en fait à tous les Kurdes. Donc, ils paraissent quand même plutôt prêts à discuter de ça avec les autorités. On verra ce qu'il en est. En tout cas, l'énergie, c'est l'un des très rares secteurs dans lequel le ministre de l'économie a dit que l'État maintiendrait des actifs, l'énergie et les transports en fait. Sinon, pour le reste, il est question de privatiser toutes les entreprises industrielles d'État. Ça a déjà été dit par ces autorités syriennes de transition, notamment à Davos. On parle déjà d'un modèle très libéral économiquement à la Côte-Manie. Est-ce que ça fait l'objet aussi d'un débat national en Syrie?
Alors, l'anecdote à ce sujet, c'est que dès le premier qui a protesté contre cette intention de tout privatiser, de tous les services, y compris les services publics, c'est le père d'Ahmed Shara. Sur les réseaux sociaux.
Ça lui a pas plus que son fils a dit.
Son propre père, qui a un background, lui, beaucoup plus nationaliste arabe et socialisant, qui dit « Ah non, ça, c'est vraiment une très mauvaise idée. »
Mais est-ce qu'il a l'appui des exemples où le panarabisme, le socialisme arabe fonctionné aussi?
C'est vraiment son inspiration, mais c'est anecdotique. Mais c'est intéressant de voir que ça, c'est sûr que ça va faire débat, au moins. Et que on ne sait pas ce que c'est la privatisation vraiment en Syrie. Enfin, ça n'a jamais eu lieu, ou presque. Même avant l'époque de Baas, c'était l'indépendance, il y avait une époque nasserienne, donc tout ça, on sait ce que c'est que, au contraire, la nationalisation, il y a un traumatisme de nationalisation, parce que pendant des générations, depuis Nasser et à part la suite de Baas, il y a eu beaucoup de nationalisation d'entreprises privées, Mais privatisation, c'est pas trop ce que ça veut dire.
On dit que ces autorités syriennes de transition veulent prendre exemple sur l'Arabie Saoudite pour convaincre à la fois les Syriens de la diaspora d'investir. Après tout, il y a bien des milliardaires syriens à l'étranger qui pourraient se dire bah, c'est peut-être le moment de venir investir. Mais aussi et surtout pour convaincre les réfugiés syriens de la diaspora de revenir, notamment les réfugiés syriens du Liban qui peut-être aujourd'hui, dit-on, vivraient un peu mieux avec une aide de l'ONU, fût-elle minime, qu'en rentrant dans un village où ils n'ont plus rien. Garance Lequen, lors de votre dernier séjour, est-ce que vous en avez croisé beaucoup de ces Syriens qui rentrent en se disant « peut-être que tout est à refaire, mais je le tente ».
Alors, les seuls que j'ai rencontrés sont plutôt des activistes, des intellectuels qui ont des moyens, dont les maisons n'ont pas forcément été détruites. Pour revenir s'installer en Syrie, encore faut-il avoir un endroit où vivre. Et quand vous allez dans la Ghouta, donc dans les villes de Jobar, Erbin ou même Harasta, Jobar n'existe plus. Enfin, ce ne sont que des squelettes. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Vous pouvez filmer pendant des minutes en voiture et ce ne sont que des squelettes d'immeubles. Erbin, c'est la même chose. Harasta est détruit à 70%. Alors Damas n'est pas détruit. Donc effectivement, les intellectuels qui reviennent peuvent avoir des maisons, ça fonctionne. Mais beaucoup de réfugiés qui n'habitaient pas forcément à Damas, dans d'autres villes, c'est beaucoup plus compliqué de revenir à Baba Ahmed, qui est un de ces quartiers martyrs de Homs, qui a été détruit à je ne sais pas combien de pourcents, mais en grande partie détruite. Vous avez beaucoup de déplacés de force qui étaient à Idlib, qui ont été donc envoyés par le régime à Idlib quand le quartier est tombé sous le contrôle du régime, reviennent, mais ils habitent dans des appartements à plusieurs familles, parce que les autres appartements ne sont pas habitables. Donc, mais il y a aussi... Je connais, pas directement, mais indirectement, des Syriens qui veulent travailler justement sur la reconstruction de ce pays, mais sans forcément aller y habiter tout de suite, parce qu'il encore faut-il pouvoir y vivre. Mais il y a cette volonté de ces Syriens qui ont appris, qui se sont formés à certaines compétences à l'étranger et qui veulent aujourd'hui offrir ces compétences à leur pays pour pouvoir le reconstruire.
Avec cet enjeu majeur, et pour conclure avec ça, la Khomeini que vous avez rappelé, la levée des sanctions. Bon, il y a plusieurs types de sanctions d'avant et après la révolution de 2011, pour le dire vite, ce serait compliqué d'entrer dans les détails, mais en tout cas, est-ce que le gouvernement états-unien aujourd'hui, s'il voulait lever les sanctions, est-ce qu'il peut le faire facilement ou il y a trop de garde-fous aujourd'hui?
Pour l'instant, le gouvernement états-unien, comme on dit, ou l'administration Trump n'a aucun projet pour la Syrie,
oui, il a rien dit
politique
encore.
Ça risque de durer un certain temps, même si il y a un lobby syro-américain qui fait une pression justement pour faire avancer cette question qui est fondamentale.
والنصايح خليها لك فوق بقى انت فاكرني يعني قلبي في غيابك وجعني روح وكن تنفعت نفسك لما تبقى في يومنا ثاني
Fouk de la chanteuse Assal Anasri, chanteuse syrienne née à Damas et qui vit aujourd'hui en Égypte. Merci à la Côte-Manie et Garance Lequen d'avoir été avec nous. On peut vous lire à la Côte-Manie dans Libération. Garance Lequen, La Tribune Dimanche, mais aussi tous les livres que vous avez publiés, notamment sur cette opération César dont vous avez été partie prenante. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette table ronde qui sera animée dès vendredi prochain, comme d'habitude, par Mélanie Chalandon. Et quant à moi, je vous retrouve lundi pour une nouvelle série de Culture Monde consacrée aux juges, dernier rempart de la démocratie, avec un point d'interrogation, notamment la question des juges fédéraux aux États-Unis qui sont un peu en état d'urgence face à tous les décrets pris par Donald Trump pour démanteler l'État fédéral. À lundi, dans un instant, ce sont les Midis de Culture.